Je me souviens avoir été au bord de l'eau à taquiner le goujon alors que le ciel se voilait. Puis on apercevait des éclairs, on entendait le tonnerre et on distinguait des masses sombres, des trombes d'eau qui se déversaient pas très loin. L'orage tournait et j'espérais bien l'éviter, mais je finissais presque toujours par prendre une bonne rincée. C'est un peu comme ça qu'Amos prophétise les jugements de Dieu contre 8 nations. Le prophète se trouve à Bethel sur le territoire d'Israël nord et de là, il voit d'abord venir le châtiment de la Syrie au nord-est d'Israël, puis c'est le tour des Philistins qui sont à l'opposé, au sud-ouest. Maintenant, nous remontons jusqu'aux Phéniciens qui se trouvent au nord-ouest d'Israël. Je continue à lire dans le premier chapitre du livre d'Amos. L'Éternel dit ceci, « À cause de 3 crimes de Tyr, et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, car ils ont livré à Édom des déportés en masse. Ils n'ont fait aucun cas du traité de fraternité qui les liait au peuple frère. Je mettrai donc le feu aux murailles de Tyr, et il consumera les palais qui s'y trouvent. » Versets 9 et 10. Tyr était la ville la plus importante de la Phénicie. Située au nord d'Israël, sur la côte méditerranéenne, cette ville participait à l'odieux trafic d'esclaves juifs. Les Phéniciens servaient d'intermédiaires en les achetant aux Philistins et en les revendant aux Édomites qui venaient les chercher à Tyr par caravane. Les Philistins ont certes une conduite condamnable, mais les Phéniciens sont encore plus coupables. En effet, ils avaient entretenu des relations très amicales avec le roi David et ils avaient fourni du bois et des ouvriers pour la construction du temple de Salomon à Jérusalem. Et plus tard, Achab, le roi d'Israël Nord, avait épousé Jézabel, fille du roi de Sidon. C'était peut-être une diablesse, mais quand même une princesse phénicienne. Les déportations auxquelles se sont livrés les gens de Tyr relève donc de la trahison vis-à-vis d'un peuple allié. Les Phéniciens étaient très puissants parce qu'ils avaient fondé un empire avec des colonies un peu partout en Méditerranée. L'histoire de la destruction de la ville de Tyr est très complexe et a duré longtemps. Tout le monde y a plus ou moins participé, depuis les Assyriens jusqu'à Alexandre le Grand, en passant par Nabuchodonosor et les Arabes. Je continue le texte. L'Éternel dit ceci, « À cause de 3 crimes d'Édom, et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, car il a poursuivi le peuple frère avec l'épée, en étouffant toute pitié, et il n'a pas cessé de le meurtrir avec colère, et de nourrir sans fin sa haine invétérée. Je mettrai donc le feu au milieu de Théman, et il consumera les palais de Botsra. » Versets 11 et 12. Édom, aussi appelé pays de Séir, se trouvait en deçà de la mer Morte au sud d'Israël. Il avait Pétra pour capitale. Théman était aussi une ville importante. Quant à Bostra, elle se trouve à 5 km au nord de Pétra, au sud de la mer Morte. Édom est le parent le plus proche d'Israël, car il descend d'Ésaü, frère de Jacob. Les Édomites et les Israélites sont donc cousins. Mais l'histoire des Édomites se résume à une hostilité quasi permanente à l'égard d'Israël. Ils furent soumis par David, et cela dura jusque sous le roi Josaphat, bien qu'ils essayèrent de secouer ce joug. Mais sous le règne de Joram, fils de Josaphat, ils se rebellèrent et bien que vaincus à plusieurs reprises, chaque fois que Jérusalem était attaquée, ils se joignaient aux envahisseurs pour capturer les fuyards juifs et piller le pays. Voilà pourquoi le jugement va tomber sur les Édomites et qu'ils recevront leur juste salaire. Je continue. L'Éternel dit ceci, « À cause de 3 crimes des Ammonites, et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont ouvert le ventre des femmes qui étaient enceintes en Galaad en recherchant à agrandir leur territoire. » Verset 13. Les Ammonites descendaient du neveu d'Abraham, Lot, et de sa fille cadette. Oui, je sais, ça fait désordre. Mais le résultat est que ce peuple était composé de petits cousins des Israélites. Ils s'étaient établis au nord-est de la mer Morte, dans l'actuelle Jordanie. Au nord des Ammonites se trouvaient les Israélites de Gad et de Manassé, à qui Galaad avait été attribué par Moïse. Cela dit, dans les Écritures, la région de Galaad désigne souvent la totalité du territoire israélite à l'est du Jourdain. Aujourd'hui, elle se trouve en Jordanie. Bien que cousins, les Israélites et les Ammonites se faisaient souvent la guerre. C'est de l'oppression de ce peuple que Jephté délivra Israël à l'époque des juges. L'horrible coutume guerrière qui consiste à éventrer les femmes enceintes est mentionnée deux autres fois dans les Écritures. Son but était de terroriser et d'exterminer complètement le peuple ennemi. Quant aux jeunes enfants, ils étaient soit tués, soit mis en esclavage. De cette façon, le terrain devenait libre de tout occupant et la nation conquérante n'avait plus qu'à s'installer. C'est ce qu'ont fait les Ammonites. Je finis le premier chapitre. J'incendierai les remparts de Rabba, alors le feu consumera les palais qui s'y trouvent, au bruit des cris de guerre en un jour de combat, dans la tempête, en un jour d'ouragan. Leur roi s'en ira en exil avec tous ses ministres, l'Éternel le déclare. Versets 14 et 15. Rabba était la capitale royale des Ammonites et sur ses ruines a été érigée Amman, l'actuelle capitale de la Jordanie. La tempête et l'ouragan symbolisent la puissance de Dieu qui administre sa justice expéditive et implacable. Ce jugement fut accompli par les Assyriens. Nous arrivons au chapitre 2 et c'est au tour de Moab d'entendre la sentence de Dieu et de subir son châtiment. Je commence à lire. L'Éternel dit ceci, « À cause de trois crimes de Moab, et même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, car ce peuple a brûlé les os du roi d'Édom pour les réduire en chaux. » Verset 1. Les Moabites descendaient du neveu d'Abraham, Lot, et de sa fille aînée. D'accord, ça fait désordre, mais cela n'empêche pas que les Moabites étaient eux aussi des petits cousins des Israélites. Ils occupaient un territoire à l'est de la mer Morte et au sud de leurs frères Ammonites et comme eux, avaient une hostilité ancestrale constante envers Israël. L'incident relaté par Amos concernant le crime odieux des Moabites à l'égard de la dépouille du roi d'Édom fut un acte de vengeance. Voilà comment ça s'est passé. Moab était assujetti au roi d'Israël Nor, Akab. On lit que Mécha, roi de Moab, élevait de nombreux troupeaux de moutons. Chaque année, il devait payer au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. Mais quand le roi Akab est mort, Mécha en a profité pour secouer le joug israélite qui pesait sur lui. Il y a réussi pour un temps, mais quand Yoram, fils d'Akab est devenu roi à la place de son frère aîné, il a demandé l'appui de Josaphat, roi de Juda, qui accepta de l'aider. Et comme à cette époque Édom était assujetti à Israël Nord, les Édomites furent de la fête, si on peut dire. Finalement, grâce à l'intervention de Dieu, ils ont battu les Moabites à plate couture. Le prophète Élisée leur avait dit au nom de l'Éternel, « Vous détruirez toutes leurs villes fortifiées et toutes les villes importantes. Vous abattrez tous leurs arbres, vous boucherez toutes leurs sources d'eau et vous dévasterez tous leurs meilleurs terrains en les couvrant de pierres. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Le roi de Moab était encerclé dans sa capitale. Alors, dit le texte, quand le roi de Moab comprit qu'il ne pourrait résister à l'attaque, il prit avec lui 700 soldats armés d'épées et tenta de se frayer un passage en direction du roi d'Édom, mais il n'y réussit pas. Cependant, il semble que le roi d'Édom fut tué à ce moment-là. Le roi de Moab, toujours encerclé, est désespéré. Alors, dit le texte, il fit venir son fils aîné qui devait lui succéder sur le trône et il l'offrit en holocauste sur le rempart. À ce spectacle, les Israélites furent si indignés qu'ils se retirèrent loin du roi et rentrèrent dans leur pays. Fin de citation. Une fois le calme revenu, les Édomites ont enterré leur roi avec tous les honneurs dus à son rang. Mais les Moabites, qui avaient la dent dure, ont voulu se venger. Alors on peut imaginer qu'une nuit ils ont envoyé un commando qui a déterré la dépouille du roi d'Édom et l'a ramenée pour la brûler en grande fanfare. Il faut savoir que ce n'est pas l'incinération elle-même qui est condamnée par Dieu, mais l'acte de profanation du corps du roi d'Édom. Dans le Proche-Orient ancien, dégrader un cadavre était considéré comme une action abominable. L'Éternel va donner aux Moabites le salaire de leur crime. Je continue le texte. « Je mettrai le feu à Moab et il consumera les palais de Kériot, et Moab périra en plein tumulte au bruit des cris de guerre, au son du cor. Je ferai disparaître son juge suprême, le roi, et avec lui, je vais exterminer tous ses princes. L'Éternel le déclare. » Versets 2 et 3. Le mot « Kériot » signifie « les villes » parce qu'il désigne une cité qui possédait une partie haute et une partie basse. La localisation de cette ville est incertaine, mais il pourrait s'agir d'un autre nom pour la capitale. Moab fut rayé de la carte en tant que nation par les Babyloniens. On pourrait penser que, comme beaucoup d'autres peuples, les Moabites ont brillé un temps puis ont complètement disparu. Pas tout à fait. Une jeune femme appelée Ruth était Moabite et elle se maria à Boaz, un homme de la tribu de Juda, et son arrière-petit-fils fut le grand roi David. Boaz a épousé Ruth parce que c'était une femme de qualité et le fait qu'elle était moabite ne le dérangea pas du tout parce que c'était pratiquement une tradition dans la famille d'épouser une païenne puisque sa propre mère était Rahab, la célèbre prostituée de la ville cananéenne de Jéricho. Je continue le texte. L'Éternel dit ceci. À cause de 3 crimes de Judas et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, car ils ont méprisé la loi de l'Éternel et n'ont pas obéi à ses commandements. Ils se sont égarés en suivant les faux dieux qu'autrefois leurs ancêtres avaient déjà suivis. Je mettrai le feu à Judas et il consumera les palais de Jérusalem. Versets 4 et 5. Pour les 6 peuples qu'il a mis au banc des accusés, Amos a cité la raison de leur châtiment imminent. En ce qui concerne Judas, Dieu lui reproche uniquement des péchés d'ordre religieux. Ses habitants ont désobéi à la loi de Moïse, et bien que le temple de l'Éternel était sur leur territoire à Jérusalem, ils se sont livrés à l'idolâtrie. C'est vraiment chercher le bâton pour se faire battre. Alors que les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel dénonce les fautes du royaume du sud avec force détail et noircissent des pages et des pages, ici Amos condamne Judas en utilisant seulement 2 verbes. Les accusations qu'il porte contre ce royaume, ne pas avoir obéi au commandement de Dieu, n'auraient aucun sens si elles étaient adressées à des païens. Par contre, elles sont justifiées à l'égard d'Israël parce qu'il occupe une position unique et jouit de privilèges qui n'ont pas été accordés aux autres nations. Seulement, ces bénédictions étaient conditionnelles et associées à des responsabilités que les Juifs n'ont pas satisfaites. Pour cette raison, le couperet de la justice divine tombera sur Juda. Tant que le prophète déclarait des jugements de Dieu contre des nations païennes et en plus ennemis d'Israël Nord, l'auditoire applaudissait, si on peut dire. Mais quand Amos a mentionné Juda, Il se fait un grand silence dans la salle, façon de parler bien sûr, parce que ceux qui acceptaient d'écouter Amos avaient une certaine foi en l'Éternel. Or, ils savaient très bien que leur nation était pire que Juda. Non seulement ses habitants étaient coupables des mêmes péchés religieux que le royaume frère du Sud, mais ils commettaient en plus d'horribles péchés dans les domaines social et moral. Or, comme ils savaient que l'Éternel est parfaitement juste et qu'il ne fait pas de favoritisme, ses auditeurs ont dû se sentir très mal à l'aise, car ils devinaient que le jugement tomberait sur eux tout comme sur Juda. La ruine de ce royaume ainsi que de Jérusalem fut accomplie par les armées babyloniennes conduites par Nabuchodonosor. Je continue le texte. L'Éternel dit ceci. À cause de 3 crimes d'Israël, et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, car pour de l'argent, ils vendent le juste, et l'indigent pour une paire de sandales. Verset 6. L'orage qui jusqu'à présent tournait autour atteint enfin sa cible, Israël Nord. Amos utilise la même formule de menace que dans les 7 cas précédents, mais la sentence sera plus longue. Tant que le prophète Amos condamnait les autres peuples, ses auditeurs nationalistes trouvaient peut-être qu'il était bon prédicateur. Mais quand il a pointé son doigt directement sur les péchés d'Israël Nord, alors ces mêmes gens choqués ont dû se dire « Mais qui est cet intrus et de quel droit se mêle-t-il de nos affaires ?» C'est aussi comme ça que réagissent certains membres d'Église quand ils écoutent le sermon du dimanche matin. Tant qu'il est vague et gentil, ou formulé en termes qui ne les concernent pas de trop près, ça va. Mais ce qui compte, c'est comment je réagis quand la prêche me fait transpirer en parlant de fautes dont je suis coupable. La première accusation d'Amos est dirigée contre les riches et les magistrats parce que les premiers soudoyaient les seconds. En Israël, quand un juste venait plaider sa cause en justice, il se retrouvait condamné à cause d'un pot de vin que son adversaire avait versé au juge. C'était une violation flagrante d'un article de la loi qui dit « Vous ne fausserez pas le cours de la justice, vous ne ferez pas preuve de partialité envers les personnes et vous ne vous laisserez pas corrompre par des cadeaux, car ceux-ci aveuglent même les sages et compromettent la cause des innocents. » La deuxième accusation d'Amos est dirigée contre ceux qui exploitaient honteusement les pauvres. En Israël, quand quelqu'un ne pouvait s'acquitter d'une dette, il pouvait, en dernier recours, se vendre comme esclave, et la loi autorisait la saisie d'un débiteur insolvable et la privation de sa liberté pour un temps et sous certaines conditions. Mais ici encore, les riches, encore eux, se rendent coupables en abusant de la loi car ils l'appliquaient sans la moindre miséricorde pour une dette de misère. Rien de plus simple et bon marché en effet qu'une sandale qui consiste en une semelle attachée au pied par un lien quelconque. Je continue. Ils convoitent jusqu'à ce que la poussière de la terre soit sur la tête du pauvre. Ils violent le droit des faibles, le fils comme le père vont vers la même fille, c'est ainsi qu'ils m'outragent, moi qui suis saint. Verset 7. Les oppresseurs des pauvres sont tellement avides qu'ils ne reculent devant aucune exaction pour extorquer ceux qui sont sans défense jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus qu'à se jeter de la poussière sur la tête en signe de désespoir et de deuil. Ce qui se passait en Israël était presque comparable à la Louisiane et la façon dont les jeunes filles esclaves et bien faites étaient utilisées par leur maître et ses fils dans les plantations de coton. Ici, il s'agit d'un propriétaire qui a pris une servante comme concubine, ce qui était permis par la loi. Par contre, il lui était formellement interdit de la partager avec quelqu'un d'autre, serait-ce son fils. Cette femme, bien que servante ou esclave, avait des droits. Je continue. Près de chaque autel, ils s'étendent sur des vêtements pris en gage, et dans le temple de leur dieu, ils vont boire le vin que l'on a perçu comme amande. Verset 8. Les veaux d'or que les Israélites du Nord adoraient étaient censés être des représentations visibles de l'Éternel. Cela dit, c'était quand même de l'idolâtrie. Non seulement ces gens sont coupables de ce péché, mais ils ont le plus grand mépris pour les pauvres dont ils ont pris le manteau qui leur servait aussi de couverture la nuit quand ils dormaient à la belle étoile. Selon la loi de Moïse, il était permis de prendre un vêtement en gage, mais il devait être rendu à son propriétaire à la tombée de la nuit. Je lis les passages. « Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est là sa seule couverture. Autrement, dans quoi s'envelopperait-il pour dormir? S'il crie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. Tu ne manqueras pas de le lui rapporter au coucher du soleil, pour qu'il puisse s'en couvrir à son coucher en te bénissant, et l'Éternel ton Dieu considérera cela comme une marque de justice. » Comme l'adoration des idoles tournait généralement en orgie et que dans ce passage il est question de vin qui a été extorqué à un pauvre métayer, Amos condamne peut-être aussi une pratique des riches propriétaires qui consistait à ne pas rendre le manteau des pauvres qu'ils avaient en leur possession afin de pouvoir s'en servir comme tapis de sol sur lequel il s'ébrouait avec les prostituées sacrées qui œuvraient dans les temples idolâtres. Paganisme et sexe débridé vont toujours de pair. Il n'y a qu'à constater ce qui se passe chez nous.